Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et tête de liste en Seine-Saint-Denis pour les élections régionales sur la liste conduite par Clémentine Autain. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Christophe Prudhomme, nos auditeurs vous connaissent certainement puisqu'en tant que médecin urgentiste, vous intervenez souvent dans les médias, mais on ne connaît pas forcément votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce parcours en quelques mots ?
Eh bien écoutez, je suis médecin depuis 1987, médecin urgentiste maintenant. À l'époque, cette qualification n'existait pas. On a inventé cette nouvelle activité, cette nouvelle spécialité. Depuis cette date, je travaille en Seine-Saint-Denis. J'ai travaillé dans différents hôpitaux et je me suis fixé assez rapidement à l'hôpital Avicenne, aux urgences et au SAMU de Seine-Saint-Denis. En parallèle, j'ai mené d'autres activités, des activités syndicales en particulier, au sein de l'Association des médecins urgentistes de France, présidée par Patrick Peloux, dont je suis le porte-parole. Aussi à la CGT, où j'ai des responsabilités, je siège dans un certain nombre d'instances, dont le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie et le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. J'ai aussi été élu municipal à Pantin quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, voilà, je reviens vers la politique dans une période où je pense qu'il y a nécessité d'un engagement à partir des problématiques de terrain. C'est ce que je souhaite faire avec Clémentine Autain, voilà.
Et la Seine-Saint-Denis, c'est un département que vous connaissez depuis toujours et qui est lié à votre histoire personnelle.
Oui, tout à fait. Je suis arrivé à l'hôpital Avicenne puisqu'à l'époque, j'habitais la cité qui jouxte l'hôpital, la cité des Courtillères, une très grande cité. Voilà, et donc je suis très attaché à ce département où j'ai, je vous dis, été conseiller municipal à Pantin. J'y travaille j'essaye avec d'autres d'y maintenir des services publics, en particulier un service public hospitalier de qualité pour la population qui a le droit. Un service public qui est souvent dégradé, pour lequel il faut se battre pour obtenir des moyens en permanence, mais voilà, c'est important que le principe constitutionnel d'égalité de traitement de la population, quel que soit son lieu de résidence, soit préservé dans notre République. C'est ce qui fait le ciment de la République.
Vous êtes syndicaliste, Christophe Prudhomme, un médecin engagé, un lanceur d'alerte. Vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est par la politique qu'on peut faire avancer les dossiers qui vous sont chers, pas seulement par le combat syndical?
Il faut revenir à la définition de la politique. Déjà vu le rejet de la politique, l'abstention, c'est parce que c'est de la politique politicienne, hein, les copains et les coquins. La politique, c'est s'intéresser à la vie dans la cité. Et voilà, donc il y a la limite de l'action syndicale, c'est que les syndicalistes, posent des revendications, se battent, négocient, mais il y a un moment donné, il y a aussi la gestion de la vie quotidienne, le vote des lois et... Eh bien, il ne faut pas laisser ça à d'autres, à une petite caste qui se l'est arrogée ces derniers temps et qui est très coupée des réalités de la population.
Christophe Prudhomme, vous êtes tête de liste en Seine-Saint-Denis, un département qui est l'un des plus pauvres de France, qui est victime aussi d'inégalités dans l'accès aux services publics. Qu'est-ce qui explique que ce département ait été l'un des plus touchés par le Covid ?
Vous savez, on a parlé des premiers corvées. Ben, les premiers corvées, ce sont les habitants de la Seine-Saint-Denis. Et heureusement qu'ils sont là, parce que ce sont les travailleurs de Seine-Saint-Denis qui ont permis que, pendant le confinement, eh bien, on ramasse les poubelles, on balaye les rues, on s'occupe de l'aide à domicile pour les personnes âgées, qu'il y ait des personnels dans les EHPAD, des aides-soignantes, qu'on ramasse les poubelles, qu'il y ait des caissières dans les magasins. Voilà, c'est ça la population de la Seine-Saint-Denis. Alors... Malheureusement, moi, ce que j'ai vécu depuis les années 80 aujourd'hui, c'est que c'était déjà un département ouvrier, mais avec une population assez mixte. Et l'évolution politique en Seine-Saint-Denis, hein, les politiques qui ont été menées, ont abouti à une ghettoisation avec une concentration des populations pauvres dans le nord-est parisien et des populations riches dans le sud-ouest. Hein. Vous savez, si vous tracez une ligne qui part du nord-ouest parisien au sud-est, eh bien, il y a une grosse différence qui s'aggrave d'année en année entre ce qui est au nord de cette ligne et ce qui est au sud de cette ligne. Et ça, c'est un drame parce que c'est une grande partie des difficultés de la société aujourd'hui sont liées à cette politique de sélection spatiale des populations.
La question des déserts médicaux est plus que jamais d'actualité. Je pense notamment à l'absence de spécialistes. Si vous tapez dermatologue, par exemple, sur Doctolib aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous en Île-de-France avant des semaines, voire des mois. Dans certains territoires, il y a une véritable inégalité dans l'accès aux soins.
Oui, alors il y a une inégalité. Vous parlez du problème de démographie, hein, comment trouver un médecin, mais quand on en trouve un, il y a aussi les dépassements d'honoraires chez les spécialistes, hein, qui sont très importants en Île-de-France et concentrés sur certaines spécialités. Il est clair qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile de trouver un dermatologue au tarif sécurité sociale sans dépassement d'honoraires. Si vous prenez les gynécologues, enfin aujourd'hui, on a un vrai problème pour les jeunes femmes, en particulier bon les étudiantes. Pour trouver un gynécologue au tarif sécurité sociale, eh bien c'est très compliqué et c'est une catastrophe en termes de santé publique parce que effectivement il y a un renoncement aux soins, non seulement devant la difficulté de trouver un médecin, mais surtout quand on en trouve un, de ne pas pouvoir payer ces dépassements d'honoraires. Qui sont parfois très élevés.
Valérie Pécresse propose une mutuelle régionale. Est-ce que c'est une bonne idée, justement, pour pouvoir payer ces médecins qui dépassent les honoraires habituels?
Ben non, vous savez, les mutuelles, c'est sans fin. Enfin, faut pas parler de mutuelles, faut parler d'assurance maladie complémentaire. Le problème de ces assurances maladie complémentaires, c'est qu'on le voit bien, la mutuelle pour tous qui a été instaurée par Monsieur Hollande ne règle absolument pas le problème, puisque ces mutuelles d'entreprise sont en général, ces assurances maladie complémentaires d'entreprise sont en général assez limitées et ne prennent en charge qu'une partie de ces dépassements d'honoraires. Donc si on veut effectivement être remboursé intégralement, il faut prendre une surcomplémentaire. Et là, le problème que ça pose, eh bien, c'est qu'il faut pouvoir payer. Puisque ce n'est plus la sécurité sociale, c'est bien de l'assurance, c'est de l'assurance maladie complémentaire et vous êtes remboursé en fonction de ce que vous payez. Or, on voit bien aujourd'hui que devant les difficultés économiques d'un certain nombre de personnes, de familles, il y a un renoncement aussi à la couverture par une assurance maladie complémentaire de qualité. Je vais vous donner un exemple, qui est un exemple personnel. Vous voyez, c'est ma femme. Pourtant, nous avons une assurance maladie complémentaire. Ma femme est fonctionnaire territoriale, qui est soi-disant de qualité. Elle s'est fait opérer du genou. Elle a été dans un centre de rééducation privé parce que c'est très compliqué de trouver des centres de rééducation publics. Eh bien, le reste à charge après remboursement de l'assurance maladie complémentaire pour un mois dans un centre de rééducation, c'est 1 500 €. 1 500 €, c'est plus que le SMIC. Donc, vous imaginez le problème que ça pose.
Alors, vous souhaitez créer 300 centres de santé en Île-de-France. Quel est l'avantage d'un centre de santé par rapport à un cabinet de médecins en ville?
Ben, un cabinet de médecins en ville, ou même ce qu'on nous vend aujourd'hui, que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, le problème, c'est qu'on reste avec le concept de la médecine libérale, la rémunération, qu'on appelle la rémunération à l'acte. La différence, c'est qu'un centre de santé, c'est une équipe aussi avec des infirmières, des médecins, enfin ce qu'on appelle une équipe pluriprofessionnelle, mais des personnels de santé qui sont salariés. Ça change tout. Vous voyez, parce que aujourd'hui, du fait de la faiblesse de la rémunération à l'acte, hein, faut savoir 25 € la consultation médicale, ben qu'est-ce que vous voulez, c'est 10 minutes la consultation, ou alors quand les médecins vous gardent plus longtemps, c'est avec dépassement d'honoraires. Quand vous êtes face à un professionnel de santé, infirmière, médecin, kiné, qui est salarié, ben, il prend le temps qu'il faut pour chaque patient. C'est ça la grande différence. Et puis, je pense que c'est l'avenir de la médecine, parce que les jeunes aujourd'hui ne s'installe plus en libéral. Le meilleur exemple, vous voyez, on l'a pris en province, c'est le département de la Saône-et-Loire, hein, qui est un département qui était un véritable désert médical. Eh bien, le conseil départemental, pourtant présidé par quelqu'un qui est affilié aux Républicains, mais ce qui est avant tout un élu local, eh bien, il a créé un centre de santé départemental où au départ, il pensait embaucher 30 médecins. Aujourd'hui, il en a 70 médecins avec des gens qui, y compris, ont fermé leur cabinet libéral pour venir travailler dans ces centres de santé où ils s'y trouvent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ils font que de la médecine et toute la partie administrative administratives, financières, eh bien pour ça il y a les personnels dont c'est la qualification et le rôle qui s'en occupent. Et le médecin se concentre sur ce pourquoi il a été formé, l'infirmière aussi, c'est-à-dire les soins aux patients.
Christophe Prudhomme, 300 centres de santé en Île-de-France, c'est un plan très ambitieux. On imagine le nombre de médecins, d'infirmières, de personnels soignants qu'il faudra recruter. Est-ce que vous réussirez à faire ces recrutements? Est-ce qu'il faudra recruter des médecins aussi à l'étranger?
Bah écoutez, le problème du recrutement des médecins à l'étranger, c'est le problème du numerus clausus, hein, qui n'a pas été supprimé. Enfin, c'est un mensonge du gouvernement. On a modifié le mode de sélection des étudiants donc à la fin de la première année, mais on n'a absolument pas supprimé ce numerus clausus. On a toujours un nombre de médecins formés qui est inférieur aux besoins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on forme... Enfin, l'an dernier, il y avait 9000 places à la fin de la première année. Cette année, il y en aura peut-être un petit peu plus. On aura peut-être approché les 10 000. Mais enfin, 10 000, c'est ce qui existait dans les années 70. C'est-à-dire les médecins qui partent à la retraite aujourd'hui étaient 10 000 par an. On formait 10 000 médecins par an. Or, depuis les années 70, la population a augmenté, la population a vieilli, donc les besoins ont fortement augmenté. Donc, on se fout de nous. Enfin, je veux dire, nos dirigeants se foutent de nous. Donc, on est obligé d'importer des médecins, ce qui est une catastrophe pour les pays concernés, parce que ces pays forment des médecins et ils s'en vont. Ils s'en vont, donc ils ont investi dans de la formation, donc c'est une catastrophe à tout point de vue, donc il y a nécessité de former plus de médecins, mais au-delà de cette question, il y a besoin de former aussi plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes. Ben, vous savez, moi je suis syndicaliste et la revendication aujourd'hui qui est portée par la CGT, mais plus largement par d'autres organisations, c'est que nous avons besoin de 400 000 professionnels de santé dans les années qui viennent, 100 000 de plus à l'hôpital, 200 000 en EHPAD qui manquent. Beaucoup de professionnels de santé, on l'a vu là, c'était un problème lors de la première vague, on a bien vu que ces établissements manquaient cruellement de personnel, et 100 000 professionnels pour l'aide à domicile, qui est aujourd'hui un secteur qui se développe et pour lequel aujourd'hui on manque aussi de personnel. Donc il faut former du personnel, mais je vous disais, pour trouver des médecins, ben, je vous ai donné l'exemple de médecins qui fermaient leur cabinet, qui venaient travailler dans les centres de santé, c'est attractif. Et puis, une autre proposition que nous mettons en avant, puisque la région, hein, les régions en tant que telles ont une responsabilité et ont la tutelle sur les écoles professionnelles, donc les écoles professionnelles, en particulier les écoles qui forment des professionnels de santé, les écoles d'infirmières et les écoles d'aides-soignants et des autres catégories professionnelles de santé, eh bien pour rendre ces études attractives et pour pouvoir gérer de manière intelligente l'affectation des personnels en fonction des besoins, eh bien nous proposons de revenir à un système qui existait jusqu'au début des années 80, qui s'appelle les contrats d'études, où l'étudiant, dès qu'il a passé la sélection pour rentrer dans l'école, va signer un contrat où il est payé au SMIC pendant ses études. Et ensuite, eh bien, il est l'autre partie du contrat, c'est qu'il est préaffecté dans un établissement ou un groupe d'établissements dans lequel il exercera ensuite pendant 2, 3, 5, 7 ans selon la durée de ses études initiales. Que attractif pour les jeunes d'être payé pendant ses études, c'est un intérêt aussi, vous voyez, parce que quand vous êtes payé pendant vos études, vous payez les cotisations sociales et vous commencez à cotiser pour la retraite, donc c'est aussi attractif, hein, parce que les jeunes sont particulièrement inquiets par rapport à leur retraite. Et puis, vous savez, dès le début de vos études, que vous avez un emploi à la sortie dans une zone qui est déjà prédéfinie, donc vous pouvez vous projeter en termes de logement. Et de futurs professionnels.
Christophe Prudhomme, vous avez évoqué les EHPAD tout à l'heure. On sait que ces établissements sont très onéreux aujourd'hui pour les personnes qui doivent y résider, même s'il y a parfois des aides du conseil départemental. Est-ce que la région doit investir aussi dans la création d'EHPAD publics pour permettre à tout le monde de bénéficier de ces lieux à la fin de sa vie?
La région peut influer. Alors, c'est pas le rôle de la région forcément d'investir dans ce type d'établissement. Ce sont plutôt les conseils départementaux. Mais déjà, la première chose que la région pourrait faire, c'est, puisque la région intervient au niveau de l'Agence réelle de santé, hein, puisque là, y compris les agences régionales de santé vont voir leur ce qu'on appelle la gouvernance changer avec une présence un peu plus importante des élus et notamment des élus régionaux. Eh bien, c'est déjà d'empêcher que les EHPAD existantes soient vendues au privé. Les EHPAD publics aujourd'hui sont vendus au privé. En particulier, l'assistance publique hôpitaux de Paris, présidée par Martin Hirsch, se débarrasse de ces EHPAD en les vendant au secteur privé. Donc, c'est l'urgence aujourd'hui, c'est-à-dire conserver les EHPAD existantes dans le secteur public, et puis, avoir une politique régionale de construction effectivement de structures d'accueil pour les personnes âgées publiques, et que, y compris le système d'aide à domicile, soit confié à des opérateurs publics et non pas privés. Vous savez, c'est pas la région qui a toute la maîtrise dans ce domaine, mais elle peut influer pour que on freine ce qui se passe aujourd'hui, qui est la vente par appartement du secteur public à des opérateurs privés. Vous savez, quand on a créé ces EHPAD au début des années 90, les maisons de retraite étaient essentiellement publiques. Et c'est le choix du gouvernement de l'époque d'ouvrir ce secteur aux opérateurs privés. Le résultat, 30 ans après, c'est que une bonne partie des EHPAD sont aujourd'hui dans les mains d'opérateurs privés, des groupes qui n'existaient pas au début des années 90, qui aujourd'hui sont des grands groupes qui se sont internationalisés, qui pèsent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui font payer très cher des prestations de piètre qualité, par contre qui font des bénéfices sur le dos des patients, des familles et de la sécurité sociale, pour aller investir dans des pays très lointains où le marché de ce qu'ils appellent l'or gris, la silver economy s'ouvre. Tenez-vous bien, les deux plus grands groupes d'EHPAD en France ouvrent des maisons de retraite aujourd'hui en Chine, parce qu'il y a un marché qui s'ouvre. Voilà où on en est, c'est particulièrement scandaleux. Donc ce sont des choses, effectivement, qu'il faut changer. Et la région, même si elle n'a pas la tutelle directe sur les EHPAD, a un rôle politique pour freiner cette évolution et l'inverser.
Dernière question, Christophe Prudhomme. Pourquoi avoir choisi d'être sur la liste de Clémentine Autain et pas d'un autre candidat de gauche ?
Qu'est-ce qu'est la gauche aujourd'hui ? Quand je vous parle de la privatisation des EHPAD, c'était un gouvernement socialiste. Donc voilà, et bon, les socialistes sont quand même, en termes de voilà de dynamique à gauche, un peu passé de mode. Ensuite, bon, il y a Europe Écologie des Verts. Bon, Europe Écologie des Verts qui se coulait en Ile-de-France, je pense que Monsieur Bayou est plus motivé par ses ambitions nationales que réellement pour avoir une vraie politique de gauche au niveau de la région. Donc voilà, Clémentine Autain, c'est une liste d'union entre la France insoumise, les communistes, la gauche républicaine et socialiste, le parti animaliste. Bon, c'est dans une vraie dynamique de rupture par rapport à la politique qui a été menée tant par Valérie Pécresse que par ses prédécesseurs qui étaient socialistes. Voilà, donc après, nous, ce que nous espérons, c'est qu'effectivement, il y ait une dynamique pour qu'au deuxième tour, il y ait un rassemblement de ces trois listes quand même qui ont plus de choses qui les rassemblent que les choses qui les divisent. Mais pour qu'on ait un programme qui soit réellement un programme de gauche et de rupture, eh bien, nous allons tout faire pour que cette liste menée par Clémentine Autain arrive en tête de la gauche, pour qu'on puisse fusionner avec un programme ambitieux entre la liste de Clémentine Autain, la France Insoumise, le PCF, la liste Europe Écologie des Verts et la liste du PS.
Merci Christophe Prudhomme. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et tête de liste en Seine-Saint-Denis pour les élections régionales sur la liste conduite par Clémentine Autain. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.